Club Manche, c'est 100% sport sur France Bleu Cotentin jusqu'à 19h.
18h30 avec Anthony Rimbaud. Rebonsoir.
Et puis moi, je vous souhaite une bonne soirée, mais restez avec nous quand même en tenue de sport parce que ça va décoiffer encore ce soir, évidemment. On est sur tous les terrains jusqu'à 19h. Dans le Club Manche ce soir, le président de l'US Avranches, il sera en direct avec nous alors que son club de foot lutte pour sa survie en national. Elle se fait une raison, les Jeux de Paris arrivent un peu trop tôt dans sa carrière, mais donne rendez-vous dans 4 ans à Los Angeles pour les JO 2028. Dans notre chronique olympique ce soir, la Saint-Loise, Maëlle, Biré et Louis qui vient de battre son record personnel sur le 20 km. Ça, ce sera avant 19h et on commence par le club, ce club manche par du handball et la JS Cherbourg qui déroule à Massy en attendant les playoffs. Les Mauves connaissent, ça y est, leur adversaire pour les barrages.
Club manche en mode supporter, tous derrière les Mauves.
Et surtout, restez bien avec nous parce que dans quelques instants, je vous offre vos 4 places pour le dernier match de la JS Cherbourg à domicile. Dernier match de la saison régulière. Ce sera face à Frontignan le 17 mai. 4 places à gagner ce soir pour emmener toute la famille. Et pour parler handball, comme chaque lundi, le speaker des Mauves, Sal Jaurès, est avec nous. Bonsoir Antoine Héron.
Bonsoir Anthony, bonsoir tout le monde.
Toujours accompagné évidemment de la fine fleur de la presse sportive, Aurélien Rey de la presse de la Manche et Pierre Machado de West France à Saint-Lô. Bonsoir messieurs.
Salut les amis.
Bonsoir.
Victoire de la JSC 34-30 dans la salle de Massy. On peut dire Antoine Héron que la JSC est sérieuse jusqu'au bout parce que le ticket en play-off était déjà validé avant cette rencontre.
Oui, tout à fait, effectivement. On a vu une rencontre un peu particulière, hein. Une première mi-temps décousue avec beaucoup de un petit peu de déchets. Et puis ben, on a remis un peu les cadres et une deuxième mi-temps très propre, très sérieuse, très efficace.
Aurélien Rey, c'est plutôt positif de voir ça, une équipe qui ne lâche rien et qui reste sérieuse, même si le travail a été en partie fait.
Oui, effectivement, c'est forcément positif. Hein. Une 5e victoire d'affilée pour la JS Cherbourg. Malgré les blessures, malgré la fatigue de cette saison éreintante, la JS Cherbourg continue à gagner. On voit des cadres toujours au top, comme Paul-Louis Guiraudoux qui a marqué 9 buts. Nicolas Gauthier, auteur de 14 arrêts. On voit des jeunes qui se révèlent un petit peu en fin de saison, comme Diane Lopez. Donc forcément, c'est plus que positif en vue des playoffs.
Pierre Machado, est-ce que c'est important de maintenir cette dynamique qu'évoquait Aurélien Rey, ou il aurait fallu peut-être, au contraire, reposer encore un peu plus les cadres? On les sait fatigués. Bah,
c'est chouette de garder cette dynamique, surtout que on savait, c'était assumé par Edouard Fernandez-Oura, l'entraîneur de la JSC, que voilà, ça commençait à tirer la langue du côté de la JSC et lui et son groupe attendaient très impatiemment cette petite coupure là de 3-4 jours qui débute. Donc aller gagner à Massy en sachant que les gars tiraient un peu la langue, c'est plutôt rassurant.
C'est rassurant avec donc cette victoire 34-30 qui permet quand même à la JSC de valider la 5e place. La JSC ne pourra pas faire pire, ça veut dire que Cherbourg jouera ses playoffs, en tout cas le début avec le match des barrages contre l'équipe de Célestat. Antoine Héron, Célestat comme adversaire en premier tour des playoffs avec donc ce barrage et un match aller-retour. Et est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt une bonne pioche? C'est une équipe qui va plutôt bien, la JSC.
Eh bien, tout à fait. Hein. La JS Cherbourg s'est inclinée à domicile au début du mois de septembre sur le score de 28-29, avec un match un petit peu particulier enfin sur la fin avec l'arbitrage. Je ne vais pas dire qu'on a été volé, mais en tout cas, on méritait mieux que cette défaite d'un but. Et on est allé gagner brillamment courant février à Célestat 31-28. Donc oui, je pense que la dynamique est bonne pour nous et je serais tenté de dire peu importe l'ordre des matchs.
Alors, justement, c'était ma prochaine question, Antoine Héron. Je vais vous laisser le micro, moi, ce sera plus simple, vous faites les transitions, c'est parfait. C'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il vaut mieux recevoir au match retour. On dit ça dans tous les sports, hein, même en foot, en Ligue des Champions. Alors, on va essayer de résumer ce qui se passe. C'est que pour l'instant, la JSC est cinquième. Ça veut dire que la JSC se déplacera à Célestat pour le match retour. Si la JSC, c'est encore possible, passe quatrième lors de la dernière journée, eh bien, ce sera Cherbourg qui recevra au match retour. Aurélien Rey, on dit souvent que c'est un avantage quand même d'avoir son public pour le match retour.
Oui, effectivement, c'est vrai que ça se vérifie souvent, hein. Je pense au football, en Coupe d'Europe, c'est vrai que c'est souvent le cas avec l'adrénaline, l'apport des supporters. Au match retour, on a tendance à se surpasser et c'est vrai que c'est mieux de jouer à l'extérieur maintenant. y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Il y a aussi la fatigue du voyage. Est-ce que c'est mieux de voyager en milieu de semaine ou le vendredi? Enfin, voilà, il y a plusieurs paramètres. Et bon, je me dis que cette confrontation, c'est vraiment du 50-50 entre deux équipes qui se valent. Donc après, bon, peu importe l'ordre des matchs.
Oui, parce qu'on précise, hein, c'est les Stas, c'est en Alsace, hein, c'est pas loin de Strasbourg. Faut traverser toute la France quand même pour aller jouer ce match. Pierre Machado, vous avez une petite préférence, vous recevoir d'abord, se déplacer?
Ah oui, et d'ailleurs, je pense que je vais faire tout à l'heure une passe décisive à l'ami Antoine Héron, parce que lui-même avait déjà calculé ça il y a quelques jours. Moi, c'est bien simple, hein, je vais être tout à fait transparent avec vous, je suis en direct, bon, je vais dire, hein, sur Google Maps, hein, pour dire franchement les choses, mais on peut faire pareil sur d'autres sites. Et ben là, c'est bien simple, Cherbourg-Célestat, sans les pauses, c'est 9h10 de route. Donc c'est bien simple, je pense qu'Antoine va confirmer ça. Le premier match, c'est le cinquième qui reçoit le quatrième, donc c'est un Cherbourg-Célestat le mardi 21 mai. Donc je pense qu'il vaut mieux, après le match face à Ponto le 17 mai, attendre que les amis de Célestat viennent jusqu'à Cherbourg, puisque après ils vont retourner chez eux. Donc ils vont se taper, en gros, ils vont se taper 20 heures de route en 48 heures quasiment, et ce sera beaucoup plus intéressant du coup pour nos mofs qui eux n'auront que entre guillemets le match retour à faire là-bas.
Allez, on pousse un peu le bouchon un peu plus loin, Pierre Machado Mapi, pour citer une autre marque. Tiens, vous conseillez donc à la JSC de lever un peu le pied, de rester cinquième sur le dernier match de la saison?
Alors justement, vous me dites, hein, si je dis une bêtise, mais il me semble que sur les deux matchs, le goal average est favorable à la JSC tout de même.
Exactement.
Donc même si, bah oui, donc c'est vrai que il faudrait pas que Célestat entre guillemets perde. Mais bon, enfin moi j'ai du mal à imaginer que Célestat ou Cherbourg la joue comme ça sur les matchs. J'ai du mal à imaginer les classements, enfin les calculs foireux, surtout que Célestat joue face à Caen, pardon. Ouais. Bon, logiquement une victoire de Célestat attendu, puisque en plus Caen est maintenu. Moi j'imagine mal des calculs d'apothicaire comme ça sur le dernier match, mais il vaut mieux rester cinquième, c'est vrai.
Il vaut mieux rester cinquième. Voilà, tout ça pour en arriver là. Donc voilà. Ce serait pas mal quand même de terminer cinquième. Antoine Héron, vous qui avez déjà fait ces calculs-là, parce que là, Antoine, Pierre Machado nous a fait une présentation, on a l'impression là qu'il a le prix Nobel de mathématiques. Bah non, en plus, il n'y en a pas. Mais calcul savant, vous l'aviez déjà fait, vous, Antoine Héron. Vous préférez, vous aussi, cette cinquième place et recevoir d'abord Célestat?
Ouais, effectivement, c'est un calcul que j'avais annoncé un petit peu à droite et à gauche il y a quelques temps. Effectivement, le déplacement en match retour est plus favorable pour nous. Effectivement, on aura donc 10 heures de voyage en moins à faire dans la semaine. Par contre, effectivement, le voyage retour après Célestat sera fatigant sûrement, peut-être j'espère même pour un aller-retour, parce qu'on y retournera la semaine d'après. Non, effectivement, préférable de jouer le match à domicile en premier. Et sans oublier également que la JH Cherbourg a fait une meilleure saison à l'extérieur. Je crois qu'il y a 8 victoires à l'extérieur pour seulement 7 à domicile. Donc il y a plus de victoires à l'extérieur. Donc oui, très favorable à jouer en premier à domicile. Et je pousse un petit peu la chose un petit peu plus loin. Jouer Célestat et battre Célestat, ça va être très très bien. Et je mets une petite pièce sur l'autre confrontation qui va se faire entre Frontignan et Ponto Cobo. Et lors de la saison régulière, c'est Frontignan qui a gagné 2 fois.
Ouais.
On va jusqu'au bout. Frontignan donc serait donc qualifié, la JH Cherbourg aussi, et ça serait donc un Frontignan contre Tremblay et un JH Cherbourg Istres. Moi, ça me va très très bien.
Bon, on est dans les calculs ce soir, vous l'aurez compris. C'est vrai qu'on aime bien ça parce qu'on approche la fin de saison et qu'il y a encore une chance de monter pour la JH Cherbourg manche handball. On va suivre ça évidemment. Et puis je vous le rappelle, hein, c'est tour de barrage contre Célestat. Donc, ce sera à vivre. Match aller, match retour en direct en intégralité sur France Bleu Cotentin. Antoine Héron, je vous laisse la main quelques instants parce que vous vouliez avoir ce soir dans le club Manche une pensée pour l'un de vos collègues speaker du camp de balle.
Ouais, merci Anthony pour cette parole. Oui, effectivement, je voudrais avoir une énorme pensée, hein, ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux, à mon ami Super Francis, hein, donc comme speaker comme moi du Hack Football de Saran, ancien speaker de Caen, enfin tout le monde le connaît. Il est même intervenu sur la Glacerie Basket qui vient d'avoir un très très grave accident de vélo et qui est actuellement dans le coma. Donc voilà, je voulais passer un message de soutien et j'espère que très très fort qu'il va s'en sortir parce que c'est vraiment un mec bien.
On pense à lui et soutien à ses proches aussi. Merci Antoine Héron d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi prochain évidemment pour continuer de parler handball dans le club Manche 100% sport. Bonne soirée Antoine.
Merci à vous, à bientôt.
Les débats du club Manche, chaque lundi sur France Bleu Cotentin.
Et je vous le disais, 4 places ce soir, 4 places pour assister au dernier match de la JS Cherbourg manche handball, dernier match de la saison régulière à domicile face à Frontignan, ce sera le 17 mai. Petite question, et vous êtes le plus rapide ou la plus rapide au standard de France Bleu Cotentin 02 33 23 13 23 pour emporter ces 4 places et donner la réponse à cette question. Quelle équipe affrontera Cherbourg en barrage des playoffs? Célestat ou Rouen? Le prochain adversaire en barrage, ce sera Célestat ou Rouen. On en a beaucoup parlé, donc là c'est cadeau. 02 33 23 13 23 pour emporter vos 4 places pour le dernier match de la saison régulière le 17 mai face à Frontignan. Le club manche 100% sport qui revient dans quelques secondes avec le président de l'USA Avranches. Les supporters de toute la Manche retiennent leur souffle. L'USA a 2 matchs désormais pour se sauver en national. On en parle avec son président. À tout de suite.
Club Manche en mode supporter, tous derrière les mauves. France Bleu Cotentin vous accompagne sur les routes de la Manche. Ralentissement, accident, contrôle de vitesse, vous êtes témoin d'un événement sur votre trajet. Partagez l'info et composez le 02 33 23 13 23.
Les routes secondaires entre Aymonville et Montebourg.
Vous êtes nos yeux sur la route. L'infotrafic dans toute la Manche, c'est France Bleu Cotentin. Toujours plus proche de vous.
Merci à vous de nous tenir au courant et voilà.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Cotentin, ici, on parle d'ici. 18h30, 19h, vous écoutez Club Manche sur France Bleu Cotentin.
La deuxième partie du Club Manche 100% sport avec l'US Avranches qui tente de sauver sa peau cette saison encore en National 1 de foot. Les Avranchinais qui ont perdu vendredi 3-0 à René Fenouillère contre Nancy. Les Avranchinais sont dans la zone rouge, la 14e place, car on le rappelle, cette année encore, ce sont les 6 derniers qui descendent. Le président de l'US Avranches est avec nous. Bonsoir Nicolas Leroux.
Oui, bonsoir Pierre.
Et toujours avec Pierre Machado de West France et de Aurélien Rey de la presse de la Manche. Président, c'est dur quand on est à la tête d'un club comme ça, la lutte pour le maintien, c'est les montagnes russes même pour vous. Il y a 10 jours, Avranches faisait le coup parfait à Villefranche dans la lutte pour le maintien. Et vendredi, cette défaite à domicile contre Nancy, elle fait mal, j'imagine.
Oui, bien sûr. C'est un peu l'ascenseur émotionnel. Hein. Chaque week-end, on sortait d'une belle série là de 3 victoires sur 4 matchs. On avait envie de prolonger cette belle série, mais malheureusement contre Nancy, on a des faits de jeu qui font que on a fini à 10 assez rapidement, et quand on joue contre Nancy. À 11, c'est déjà compliqué, alors à 10, la tâche a été rude.
Alors maintenant, vous vous dites, Nicolas Leroux, il va falloir gagner les 2 derniers matchs. Vous êtes à 4 points du premier non relégable.
Oui, voilà. Donc c'est vrai qu'au classement, on n'a pas bougé, mais par contre, les premiers non relégables se sont échappés. Donc du coup, c'est vrai que tout est possible encore. Il va falloir gagner à Cholet absolument, et ce match va être déterminant. Et puis derrière, on reçoit Niort donc pour cette dernière journée de championnat. Et c'est vrai que là, on n'a pas le choix, on n'a plus de calcul à faire. Il faut engranger ces 2 victoires précieuses pour assurer le maintien.
Allez, on va faire un petit tour des stades, on va dire, en tout cas des rédactions, avec Pierre Machado de la rédaction des sports de West France à Saint-Lô, qui a une question forcément pour vous, Nicolas Leroux.
Ouais, bonsoir président. Donc là, on a parlé de l'aspect purement sportif, mais le national étant un championnat très particulier avec beaucoup de rebondissements, il se pourrait aussi que, même si dans le pire des cas, si Avranches était relégué, Avranches pourrait tout de même être en championnat national la saison prochaine, car d'autres équipes sont dans des situations budgétaires vraiment catastrophiques. Alors, sans forcément faire un point précis par club, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, en fait, qu'est-ce qui peut se passer cet été et quels sont les clubs que l'on va dire il faut suivre, parce que malheureusement pour eux ça pourrait tourner au vinaigre ces prochaines semaines?
Ah oui, en effet, l'an passé on parlait de Nancy. Nancy était premier relégable l'an passé, et puis ils sont toujours en national. Donc c'est vrai qu'il y a cette alternative, hein, bon, qui qui reste compliqué, mais on peut pas faire de plan de sur ce genre de situation. C'est vrai qu'on va avoir sans doute au moins un club qui va être relégué pour des raisons administratives, lequel je pourrais pas vous dire, je peux pas aujourd'hui pas me permettre.
Bah, on parle de Rouen par exemple qui aurait des difficultés. Ça fait partie.
Et j'entends plein de choses, mais maintenant. il faut vraiment, je suis pas au cœur du club de Rouen ni au cœur d'autres clubs nationaux. On entend beaucoup de choses. Il faut être assez prudent. Tout peut encore se passer aujourd'hui avec des repreneurs de dernière minute. Le club national est vraiment à tout niveau, que ce soit le sport, sur le terrain ou en dehors du terrain. Tout peut aller très vite, d'une semaine sur l'autre. Et c'est vraiment un championnat pour ça est très difficile à suivre pour nous en tant que président.
Donc vous dites 12e, de toute façon on est sauvé, donc c'est bien, mais à être 13e, ça pourrait peut-être passer ?
Oui, je pense qu'on peut l'être aussi. Ouais.
Bon, bah, il faudra suivre ça, ça sera le deuxième match ça, et ça peut aller jusqu'à mi-juillet, et on aura l'occasion d'en reparler, mais si ça arrive, et ce serait en tout cas une bonne nouvelle pour Avranches, mais il faudrait préparer aussi une saison sans trop savoir ce qui se passe derrière. Aurélien Rey de la presse de la Manche, une question pour le président d'Avranches ?
Oui, bonsoir président. Michel Audrin est arrivé il y a quelques semaines sur le banc pour remplacer Damien Hoth. Je voulais savoir selon vous, qu'est-ce qu'il a apporté à l'équipe, et est-ce que vous savez d'ores et déjà s'il sera encore sur le banc la saison prochaine ou est-ce que c'est trop loin et vous attendez déjà de savoir si le club se maintient?
Oui, alors avec l'arrivée de Michel Audrin, on a eu sur l'ensemble du club pas mal, avec beaucoup de dirigeants, pas mal d'apaisement, en fait, d'apaisement, de sérénité. C'est vrai que les trois premiers matchs sous sa gouverne n'a pas été une réussite, mais après on a justement par cette série là de trois victoires sur quatre matchs, on a trouvé vraiment un rythme de croisière avec les garçons et j'aime bien avec Michel Audrin son côté très communicant, que ce soit à titre collectif ou à titre personnel, et je pense que ça fait beaucoup de bien au groupe. Pour aller justement les décrocher ce maintien.
Et
pour
la
saison prochaine, pour l'instant, rien n'est fait. Parce qu'en effet, le fait de rester ou pas en national aura beaucoup d'incidence sur le choix de Michel Audrin. Et puis aussi, nous, avec le staff technique, on est en réflexion encore pour la saison prochaine à ce sujet.
Et est-ce que vous dites justement, alors c'est très facile de commenter, de poser cette question-là après les événements, mais est-ce que vous dites j'aurais peut-être dû changer d'entraîneur avant en tant que président, parce que vous le disiez, vous le rappeliez, il y a eu une petite période d'adaptation avant d'avoir cette série de résultats. Est-ce que vous dites j'aurais peut-être dû y aller avant?
Ah bah oui, avec du recul, on pourrait imaginer, bah après c'est très difficile, hein, ces changements d'entraîneur, c'est un peu pile ou face, mais après il y a un problème de ressources financières, hein. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir les moyens de pouvoir changer d'entraîneur en plein milieu de saison. Il n'y a pas que ça dans la décision, mais ça en fait partie. Dans des clubs comme l'US Avranches, avec un des plus petits budgets de national, hein, on a 2,4 millions d'euros. Je lisais hier le président de Cholet qui se plaignait d'avoir que 3 millions d'euros. Bon, 3 millions d'euros, on n'aurait pas fait le même mercato hivernal. Mais c'est une décision, à un moment donné, elle est forcément pas que financière, mais à un moment donné, elle est aussi sur le reste sportif. On n'a pas l'habitude à l'US Avranches, et on n'avait pas l'habitude à l'US Avranches de changer d'entraîneur en cours de saison. C'était quelque part une première, certains l'ont vu comme une bonne augure, d'autres non. Mais ça, c'est toujours difficile, ce genre de choix à faire. Humainement, avant tout.
Exactement. Nicolas Leroux, président de l'US Avranches, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le Club Manche 100% Sport ce soir. Et on va suivre évidemment ce club d'Avranches jusqu'au bout. Et on imagine que tous les supporters vont se mobiliser jusqu'au dernier match pour soutenir l'USA, qui, on le rappelle, est un club qui est historique presque en national maintenant, qui pourrait repartir pour une 11e saison. Et vous rappelez les difficultés dans ce championnat national à la frontière entre le professionnalisme et le monde amateur. Très compliqué de se maintenir dans ce championnat et on sera derrière évidemment l'US Avranches. Merci beaucoup Nicolas Leroux, bonne soirée.
Merci à vous, merci à tous.
Allez, à lire dans la presse de la Manche, dans les pages sport, Aurélien Rey demain.
Alors, on reviendra sur le week-end de football en Régional 1, Régional 2 avec la fin de saison qui approche. Et on reviendra également sur le départ de Djilali Bekar, l'entraîneur de Saint-Lô, qui a annoncé son départ pour la saison prochaine.
Et dans Ouest France, Pierre Machado.
Et bien, de même chez nous, puisque Djilali Bekar, on a pu l'avoir dès ce matin au téléphone. Et quelques petites informations du côté du basket aussi.
Et voilà, comme ça, vous allez pouvoir picorer partout dans la presse de la Manche. Et dans Ouest France, Pierre Machado, Aurélie Arré, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans le Club Manche 100% Sport. On se dit évidemment à lundi prochain. Nous, ça continue jusqu'à 19h et on sera dans quelques instants avec une athlète qui nous fait partager son rêve olympique depuis plusieurs mois maintenant dans le Club Manche. C'est la marcheuse saint-loise Maëlle Biret-Eloui. Elle nous rejoint dans quelques minutes maintenant avec un nouveau record personnel. Tiens, ce sera juste après Santa sur France Bleu Cotentin à 18h50.
Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas de temps. Et s'il ne reste plus rien du tout et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout
recommence-moi sur France Bleu Cotentin.
Club Manche, 100% sport, France Bleu Cotentin en mode olympique.
La dernière partie du Club Manche 100% sport, notre manche olympique avec les athlètes et les manchois sur la route des JO de Paris. On est ce soir avec une sportive qui nous fait partager depuis la rentrée son quotidien et ses espoirs de jeu, la marcheuse saint-loise Maëlle Biret-Eloui, qui a claqué il y a quelques jours sur les championnats du monde un nouveau record personnel. Peut-être pas encore suffisant pour les Jeux de Paris, mais un record quand même plein de promesses. Bonsoir Maëlle Biret-Eloui.
Bonsoir.
Parlons de ce chrono. Vous avez explosé votre record sur le 20 km. J'imagine que c'est une grande satisfaction. Est-ce que vous attendiez à faire un tel chrono?
Oui, alors je suis carrément contente de ce chrono. Mon record précédent datait des championnats de France qui avaient lieu 5 semaines avant ce 20 km. Et c'est vrai que j'ai abaissé de 2 minutes, donc je sais pas que je m'y attendais, mais je savais que j'étais davantage en forme. J'avais le temps de passer des bons entraînements, donc ça confirme en fait seulement la tendance sur la de la tendance de progression sur laquelle je suis.
Et on le rappelle, Maëlle Birelloui, vous mettez seulement sur cette distance, hein, vous n'en avez pas fait beaucoup des 20 km, donc c'est de très bon augure pour les prochaines années, ça.
C'est ça, en fait. Au début, on a encore le temps de prendre de l'expérience, et donc là, je vois que sur chaque 20 km, je me sens de plus en plus à l'aise, et donc je baisse les chronos. Et si je gagne 2 minutes à chaque fois, ça me va complètement, mais bon, je sais qu'à un moment donné, ce sera plus compliqué. Mais pour l'instant, voilà, je prends vraiment l'expérience et je suis très confiante pour la suite.
Et la suite, justement, vous dites quoi ? J'ai moyen d'arriver d'ici un an ou deux au niveau des meilleures françaises sur cette distance ?
Oui, je pense que c'est un peu le temps qu'il me faudrait. J'ai perdu 2 ans à cause de blessures ces 3 dernières années. Donc finalement, je sais que j'ai pris du retard. Après, j'ai quand même essayé d'être toujours le plus assidu possible et de maintenir la forme. Donc, je pense que, ouais, 1 an, 2 ans, je pense que ça va pouvoir commencer à être très intéressant. Je vais pouvoir me placer au niveau international un peu plus qu'avec le chrono que j'ai actuellement.
Vous visez maintenant, vous allez attendre les prochains Jeux en 2028. J'imagine que là, clairement, ça va être votre objectif prioritaire désormais.
C'est ça. C'est vrai que, à la base, je me voyais plus en 2028 qu'en 2024. Après, c'est vrai que les Jeux à Paris, ça donnait forcément vraiment envie d'y participer. Donc, j'ai tenté, j'ai essayé de me donner dans l'entraînement. Après, voilà, c'est encore trop juste. Donc non, Los Angeles 2028, je vais commencer à être vraiment au top de ma forme et j'espère que là-bas, je vais pouvoir porter le maillot de l'équipe de France et enfin pouvoir participer à ces Jeux et évidemment faire la meilleure place possible.
C'est la classe aussi Los Angeles, même si évidemment vous auriez aimé être à la maison pour ces Jeux Olympiques. Comment réagissent vos coéquipières de l'équipe de France quand ils voient une athlète progresser rapidement derrière elle? Est-ce qu'il y a du soutien? Il y a plein de conseils? Ou il y a un petit peu d'inquiétude, vous sentez, chez certaines?
Je ne vais pas dire que des conseils forcément, parce que voilà, on est toujours adversaire. Après, l'équipe de France féminine, notamment en marche, est très jeune, donc il y a certainement une ou deux filles qui vont participer aux Jeux cette année qui ont 1 an seulement de plus que moi. Donc en fait, on se connaît depuis longtemps et je ne vais pas dire qu'on se soutient, mais cette émulation elle permet de chacune de notre côté de nous donner au maximum parce qu'on sait qu'il y a de la concurrence, non seulement au niveau international, mais rien qu'au niveau national, ça commence à devenir vraiment un très très haut niveau.
Alors on l'a bien compris, ça va être trop juste hein, pour ces Jeux de Paris, a priori, même s'il peut encore se passer des choses. Mais est-ce que le fait qu'il y ait ces Jeux à Paris, ça vous a aidé à progresser peut-être plus vite qu'une autre année où il n'y aurait pas eu, ces JO à Paris, avec la motivation, cet espoir de faire les Jeux à Paris?
Je ne sais pas forcément parce que je ne suis pas non plus quelqu'un qui grille les étapes. En tout cas, j'essaie de pas le faire. Et il ne faut pas non plus, on va dire, se brûler les ailes à l'entraînement. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire et voilà, malgré les circonstances qui n'étaient pas toujours favorables, on va dire que les Jeux de Paris c'était toujours en ligne de mire, mais il fallait également se concentrer sur le moment présent et sur la progression actuelle et pas trop vouloir se projeter dans des chronos non réalistes, par exemple.
Maëlle Birelloui, ça va être quoi la suite pour vous aux prochaines compétitions?
Alors normalement, la sélection devrait sortir demain ou après-demain. J'espère être qualifiée pour les championnats de la Méditerranée. Donc c'est une compétition dans ma catégorie d'âge espoir, moins de 23 ans, qui a lieu en Égypte dans 2 semaines. Ce sera sur 10 000 mètres. Donc normalement, en fait, mon 20 km que j'ai fait là précédemment, ça devrait être mon dernier de la saison. Et puis ensuite, il y aura des championnats de France sur piste, également sur 10 000 mètres, qui ont lieu fin juin. Donc maintenant, on va passer sur du un peu plus rapide, ce qui me va aussi très bien.
Eh bien super, merci beaucoup Maëlle Birelloui. Évidemment, on continue de vous suivre hein, sur France Bleu Cotentin pour ces prochains mois, prochaines années même, parce qu'on l'a bien compris, on n'a pas fini d'entendre parler de vous. Bonne soirée Maëlle Birelloui.
Merci beaucoup, merci.
Club Manche, 100% sport, France Bleu Cotentin en mode olympique.
Les athlètes de demain déjà sur France Bleu Cotentin en attendant les Jeux de 2028. C'est la fin de ce Club Manche 100% sport. À réécouter dès maintenant sur francebleu.fr et l'application ici. Restez bien avec nous sur France Bleu. La soirée continue dans une minute. Les infos et Décibels avec Émilie Mazoyer.